Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, le Roundup, pesticide à base de glyphosate, une nouvelle fois mise en accusation. Un nouveau procès s'ouvre ce lundi qui devrait durer plusieurs semaines. C'est un exploitant agricole originaire de Californie, victime d'un cancer, qui accuse le producteur du glyphosate, anciennement Monsanto, aujourd'hui Bayer, d'avoir diffusé des informations trompeuses à propos du Roundup et de sa dangerosité. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
Le Roundup, Edwin Hardeman, un Californien, en a pulvérisé de grandes quantités sur sa propriété pendant des décennies. Jusqu'à ce jour de février 2015, un cancer du système lymphatique lui est diagnostiqué. Il engagera son action en justice un an plus tard. Pour Bayer, le cas Hardeman semble proche de celui de Dwayne Johnson, examiné il y a 6 mois, avec une nuance de taille. C'est une juridiction fédérale à San Francisco qui est aujourd'hui chargée de l'instruire. Près de 800 dossiers impliquant le Roundup sont en train d'être regroupés dans ce même tribunal. Et le procès qui s'ouvre doit permettre d'anticiper la suite des événements, notamment de possibles négociations groupées. La posture de Bayer, elle, devrait rester la même. Le Roundup est un produit autorisé qui ne provoque pas le cancer. Le groupe, par ailleurs, pourra compter sur un coup de pouce non négligeable du juge. Les plaignants, à aucun moment, ne pourront tenter de prouver que le géant a essayé d'influencer les autorités, voire de manipuler l'opinion publique.
Les négociations commerciales entre Chine et États-Unis avancent, et avancent bien si on en croit Donald Trump, qui s'est dit hier soir dans un tweet satisfait de la tournure qu'elles prennent, ces négociations. Du coup, le président américain a décidé de reporter l'application d'une hausse des droits de douane sur plus de 200 milliards de dollars d'exportations chinoises. Une hausse qui devait intervenir le 1er mars et qui donc est reportée. À Cuba, on attend dans la journée les résultats du référendum qui s'est tenu hier sur la nouvelle constitution du pays. Un texte qui reconnaît tout à la fois l'ouverture internationale, le marché, la propriété privée et le socialisme tendance fidèle. D'où l'utilisation de la campagne référendaire par les autorités cubaines ces dernières semaines pour soutenir le Venezuela de Nicolas Maduro. Le projet de nouvelle constitution cubaine maintient aussi le rôle du Parti communiste en tant que force qui conduit le pays, pays où le chef de l'État tiendra toujours les rênes de l'économie. Un résultat favorable au oui est attendu ce soir. Sur place à Cuba, Romane Frachon.
Bordeaux. Deux enfants, soi-disant volontaires, veillent au grain. Debout de chaque côté de l'urne, en uniforme, les yeux fatigués. D'autres distribuent les bulletins de vote. Une question, ratifiez-vous la nouvelle constitution de la République? Deux réponses possibles, oui ou non. À en croire les citoyens, ils ont tous coché la première case. Vilma González est vétérinaire, elle ne conçoit même pas que l'on puisse faire campagne pour le non.
Ici, nous ne pouvons pas faire la propagande du non, on fait la propagande du oui, il le faut, point. Si vous vendez une boisson, pour la commercialiser, vous allez faire une propagande pour le vendre, non? D'autant que le oui nous représente tous, c'est la continuité de la révolution, de tout ce que nous a légué Fidel. Celui qui vote non, bah c'est son problème.
Certains ne prennent même pas la peine de se cacher derrière le rideau, ils cochent directement oui et s'assurent que quelqu'un les a vus. Selon plusieurs experts, pourtant, au moins 30% ont voté non. Mercedes Albuquerque semble être la seule à reconnaître leur voix.
Si un article ne leur plaît pas, ils peuvent dire non. Par exemple, le droit au mariage entre deux personnes, ça a été retiré. Le machisme est encore très ancré. On ne peut pas changer les conceptions du jour au lendemain.
Mais à moins d'une grande surprise, le oui a déjà gagné.
Au Venezuela, journée aux actions plus diplomatiques aujourd'hui après un week-end de fortes tensions, notamment aux frontières brésiliennes et colombiennes. L'opposant Juan Guaido, président autoproclamé, opposé à Nicolas Maduro, sera ce lundi à Bogota pour participer à une réunion du groupe de Lima. Il s'agira d'essayer d'obtenir toujours plus de soutien de la communauté internationale, alors qu'autour de la table, le vice-président américain Mike Pence évoquera sans aucun doute des modes opératoires plus directs.
Et le Brexit? Et si le Brexit était finalement décalé de 2 ans pour n'être qu'effectif en 2021?
C'est une possibilité en l'absence d'accord à Westminster pour éviter un Brexit dur. C'est ce que pensent pouvoir proposer certains dirigeants européens d'après le Guardian dans son édition du jour au lendemain d'une nouvelle annonce de Theresa May qui s'est donné une semaine de répit avant de remettre au vote son accord négocié avec l'Europe. Ce sera, dit-elle, avant le 12 mars. Theresa May très critiquée depuis cette annonce hier. En France, ce sondage publié ce matin par nos confrères de France Inter qui montre qu'une majorité de Français souhaite désormais l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes à 55% d'après cette enquête réalisée par Odoxa Densu Consulting. La météo pour terminer, un temps sec et ensoleillé encore aujourd'hui, ce qui n'arrangera pas la situation en Corse où le vent va continuer à souffler. La Corse où près de 1500 hectares de forêt ont été détruits par plusieurs incendies depuis ce week-end. Les températures sont encore élevé pour la saison, de 13 à 17 degrés au nord de la Loire aujourd'hui, de 15 à 21 degrés au maximum au sud dans l'après-midi.